Angeline ou la maison hantée par Émile Zola. Chapitre 2. Pourquoi cette histoire se fixa-t-elle dans mon crâne jusqu'à devenir une obsession, un véritable tourment? C'est là un de ces problèmes intellectuels difficiles à résoudre. J'avais beau me dire que de pareilles légendes courent la campagne, que celles-ci ne présentaient en somme aucun intérêt direct pour moi. Malgré tout, l'enfant morte me hantait. Cette Angeline, délicieuse et tragique, qu'une voix éplorée appelait chaque nuit depuis 40 ans à travers les pièces vides de la maison abandonnée. Et pendant les deux premiers mois de l'hiver, je fis des recherches. Évidemment, si peu qu'une telle disparition, une aventure à ce point dramatique, eût transpiré au dehors, les journaux du temps avaient dû en parler. Je fouillai les collections à la Bibliothèque nationale sans rien découvrir, pas une ligne ayant trait à une semblable histoire. Puis j'interrogeai les contemporains, des hommes des Tuileries. Aucun ne put me répondre nettement. Je n'obtins que des renseignements contradictoires, si bien que j'avais abandonné tout espoir d'arriver à la vérité, sans cesser d'être en proie aux tourments du mystère, lorsqu'un hasard me mit un matin sur une piste nouvelle. J'allais, toutes les deux ou trois semaines, rendre une visite de bonne confraternité, de tendresse et d'admiration au vieux poète V, qui est mort en avril dernier, à près de 70 ans. Depuis de longues années déjà, une paralysie des jambes le tenait cloué sur un fauteuil dans son petit cabinet de travail de la rue d'Azas, dont la fenêtre donnait sur le jardin du Luxembourg. Il achevait là très doucement une vie de rêve, n'ayant vécu que d'imagination. S'étant fait à lui-même l'idéal palais où il avait, loin du réel, aimé et souffert. Qui de nous ne se rappelle son visage fin aimable, ses cheveux blancs aux boucles enfantines, ses pâles yeux bleus qui avaient gardé une innocence de jeunesse? On ne pouvait dire qu'il mentait toujours, mais la vérité était qu'il inventait sans cesse, de sorte qu'on ne savait jamais au juste où la réalité cessait pour lui et où commençait le songe. C'était un bien charmant vieillard, depuis longtemps hors de la vie, dont la conversation m'émouvait souvent comme une révélation discrète et vague de l'inconnu. Ce jour-là, je causais donc avec lui près de la fenêtre, dans l'étroite pièce que chauffait toujours un feu ardent. Dehors, la gelée était terrible. Le jardin du Luxembourg s'étendait blanc de neige, déroulant un vaste horizon de candeur immaculée. Et je ne sais comment j'en vins à lui parler de la sauvagière, de cette histoire qui me préoccupait encore. Le père remarié, la marâtre jalouse de la fillette, vivant portrait de sa mère, puis l'ensevelissement au fond de la cave. Il m'avait écouté avec le tranquille sourire qu'il gardait même dans la tristesse. Un silence s'était fait, son pâle regard bleu se perdit au loin, dans l'immensité blanche du Luxembourg, tandis qu'une ombre de rêve émanait de lui semblait l'entourer d'un frisson léger. « J'ai beaucoup connu Monsieur de G, » dit-il lentement. « J'ai connu sa première femme, d'une beauté surhumaine. J'ai connu la seconde, non moins prodigieusement belle. Et je les ai même passionnément aimées toutes les deux, sans jamais le dire. J'ai connu Angeline, qui était plus belle encore, que tous les hommes auraient adoré à genoux. Mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme vous le dites. » Ce fut pour moi une grosse émotion. Était-ce donc la vérité inattendue dont je désespérais? Allais-je tout savoir? D'abord, je ne me méfiais pas, et je lui dis « Ah, mon ami, quel service vous me rendrez! Enfin, ma pauvre tête va pouvoir se calmer. Parlez vite, dites-moi tout. » Mais il ne m'écoutait pas. Ses regards restaient perdus au loin. Puis il parla d'une voix de songe, comme s'il eût créé les êtres et les choses au fur et à mesure qu'il les évoquait. Angéline était à 12 ans, une âme où tout l'amour de la femme avait déjà fleuri, avec ses emportements de joie et de douleur. Ce fut elle qui tomba éperdument jalouse de l'épouse nouvelle, qu'elle voyait chaque jour au bras de son père. Elle en souffrait comme d'une trahison affreuse. Ce n'était plus sa mère seule que le nouveau couple insultait. C'était elle-même qu'il torturait, dont il déchirait le cœur. Chaque nuit, elle entendait sa mère qui l'appelait de son tombeau. Et une nuit, pour la rejoindre, souffrant trop, mourant de trop d'amour, cette fillette de 12 ans s'enfonça un couteau dans le cœur. Je jetai un cri. « Grand Dieu, est-ce possible ?» Quelle épouvante et quelle horreur ! Continua-t-il sans m'entendre. Lorsque, le lendemain, monsieur et madame de G trouvèrent Angéline dans son petit lit, avec ce couteau jusqu'aux manches, en pleine poitrine. Ils étaient à la veille de partir pour l'Italie. Il n'y avait plus là qu'une vieille femme de chambre qui avait élevé l'enfant. Dans leur terreur qu'on pût les accuser d'un crime, ils se firent aider par elle. Ils enterrèrent en effet le petit corps, mais en un coin de la serre qui est derrière la maison, au pied d'un oranger géant. Et l'on y trouva, le jour où les parents morts, la vieille bonne conta cette histoire. Des doutes m'étaient venus. Je l'examinai, pris d'inquiétude, me demandant s'il n'inventait pas. Mais, lui demandai-je, croyez-vous donc aussi qu'Angéline puisse revenir chaque nuit au cri déchirant de la voix mystérieuse qui l'appelle ? Cette fois, il me regarda. Il se remit à sourire d'un air indulgent. Revenir, mon ami. Tout le monde revient. Pourquoi ne voulez-vous pas que l'âme de la chère petite morte habite encore les lieux où elle a aimé et souffert? Si l'on entend une voix qui l'appelle, c'est que la vie n'a pas encore recommencé pour elle. Et elle recommencera, soyez-en sûrs. Car tout recommence, rien ne se perd. Pas plus l'amour que la beauté. Angéline. Angéline, Angéline, et elle renaîtra dans le soleil et dans les fleurs. Décidément, ni la conviction ni le calme ne se faisaient en moi. Le vieil ami V, le poète enfant, ne m'avait même apporté que plus de troubles. Il inventait sûrement. Cependant, comme tous les voyants, peut-être devinait-il. « C'est bien vrai, tout ce que vous me racontez là » osais-je lui demander en riant. Il s'égaya doucement à son tour. « Mais certainement, c'est vrai. Est-ce que tout l'infini n'est pas vrai ?» Ce fut la dernière fois que je le vis, ayant dû m'absenter de Paris quelque temps après. Je le revois encore, avec son regard songeur, perdu sur les nappes blanches du Luxembourg. Si tranquille, dans la certitude de son rêve sans fin, tandis que moi, le besoin de fixer à jamais la vérité, toujours fuyante, me dévore.